On jase ton émission d'actualité du midi. On parle d'actualité provinciale comme on vient de le faire avec le dossier santé numérique. On parle aussi d'actualité locale et on en sait un peu plus. Le projet pilote de 1000 unités de logement, 28 millions investis en capitale nationale. C'est pas mal les grandes lignes de l'annonce là, présentement que Christine Fréchette et Lionel Carman sont en train de faire. Mathias Turcotte est au point de presse.
Oui, mais on repart de la base. Conférence de presse en services sociaux aujourd'hui. Effectivement, la première ministre est à Québec avec Lionel Carman qui est aux services sociaux. Il y a plein de gens, là, entre autres pour l'habitation, Karine Boivin-Royer, Jean-François Simard pour la capitale nationale, Karianne Bourassa pour les sports et le maire de Québec aussi sur place. Alors, on s'attendait assurément à quelque chose d'annoncé, mais surtout deux nouvelles mesures pour lutter contre l'itinérance. On est toujours en direct, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a 28 millions de dollars. C'est une enveloppe qui avait été mise de côté pour la nouvelle première ministre essayer de revamper un peu ce qu'elle avait envie. Elle a choisi l'itinérance. Donc, deux nouvelles mesures. Et parmi celles-ci, tu as un projet pilote de 1000 unités de logement pour aider les personnes qui souffrent de cette situation d'itinérance.
Alors, on va suivre le tout pour vous. Mathias va être dans le retour avec Denis, Véro et Audrey pour nous faire justement le résumé complet de cette belle annonce pour la capitale nationale.
André Joyal, président de la Vitrerie Joyal. I'm the boss.
Bonjour, M. Joyal.
Bonjour. J'ai travaillé comme un fou pour bâtir une entreprise que je pourrais léguer à mes fils. Ma compagnie est une belle réussite, j'ai une belle famille. Je suis plutôt malheureux.
M. Joyal, c'est le meilleur vendeur de tout le Grand Laval.
Pendant que je suis ici, on va profiter de passer en commun.
C'est Grand Laval.
Ça n'a pas bien été.
Oh, lit! Tu
vas faire quoi pour vendre plus?
Je vais essayer de vendre plus.
Je veux devenir humoriste.
N'importe quand que tu fais un show, je t'assieds en première rangée.
Ils vont...
Rémi Villemur s'est tapé au complet la télésérie Vitrerie Joyal. Rémi Marceau, le matin, il m'a dit « Je t'accroche bien raide. » Pascal CV m'a dit « J'ai commencé, je trippe au bout. » Dis-moi donc, toi, tu te situes où par rapport à cette... télésérie sur Prime avec Martin et Matt, Vitrerie Joyal.
Moi, je l'ai terminé. Je l'ai regardé en deux coups. Donc, le premier soir, 3 épisodes, puis le deuxième soir, les 3 derniers. C'est 6 épisodes de 35 minutes. Plusieurs choses à dire. Pour commencer, Prime, là, moi, je suis abonné à Prime depuis des années. Et au début, quand vous étiez abonné à Prime, il n'y avait pas de publicité. Et là, à un moment donné,
ouais, là,
ils se sont rendus compte que... Oui, ben, c'est pas juste qu'il y en a, c'est qu'en réalité, vous continuez de payer, puis il y en a. Fait que comme utilisateur-payeur, vous vous dites, c'est parce que je pensais qu'on avait un marché, là, vous deux. Là, c'était, je payais, puis j'avais pas de pub. Fait que là, finalement, tu payes, puis tu as accès au contenu, mais avec de la pub. Donc, en fait, tu payes pour avoir accès au contenu et non pas au contenu sans pub. C'est quand même bien joué. Je vais réfléchir à si je reste abonné ou pas, moi. J'aime pas ça me faire crosser. Deuxième affaire, on va parler de la série que j'ai donc terminée. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, là, beaucoup apprécié. La seule affaire, c'est que, et tout est devenu plus clair quand j'ai entendu Martin Matt en parler l'autre jour de cette série-là et surtout des coulisses, du processus qui l'a mené à... Et il disait au début, moi, je travaille avec François Arard depuis des années. François Arard, c'est l'auteur des Bougons, on le sait. C'est quand même quelqu'un qui est capable d'aller loin dans l'humour grivois et dans l'humour noir. On a commencé à écrire des textes et on nous a dit à Prime qu'il y avait des blagues qu'on ne pouvait pas faire. Il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas vraiment mettre à l'écran en 2026. Et quand vous regardez la série, puis Pascal, elle va pouvoir en témoigner parce qu'elle a vu la première partie de la série... Je pense qu'on sait de quoi il s'agit. C'est qu'il y a des personnages hommes, blancs, d'un certain âge dans cette série-là, qui sont des hommes d'une autre époque. Et au début, Prime n'en voulait pas de ça. Okay. Ils ont dit à Martin Matt, on n'en veut pas. Et Martin Matt a dû demander une rencontre en Zoom et leur expliquer en anglais que, ben, y avait une part des choses à faire. C'est-à-dire que si tu fais un personnage en 2026 de 30 ans, qui tient des propos comme ceux qu'on entendait peut-être dans les tavernes, je dis peut-être, mais qu'on entendait dans les tavernes dans les années 70-80, ben ouais, il y a peut-être des explications à offrir. Sauf que là, il a dû leur expliquer que c'était une série d'époque. C'est une série qui se passe en 1995. Puis le personnage principal, il a à peu près 50 ans. Donc, c'est un homme qui est né en 45, si la mathématique est bonne. Et ça, ils n'ont pas compris ça du premier coup. Et ça, c'est incroyable quand même, à vrai dire, que des gens s'essayent à la culture et à l'art et à la télévision et ne soient pas capables. du premier coup de comprendre des choses comme ça, qu'ils aient besoin d'explications. Ça, c'est la première affaire. Là, je vous lance là-dessus parce que ça m'a frappé.
Bien, je trouve ça un peu étrange parce que je me dis, si on a une fermeture automatique au départ, c'est-tu parce qu'on n'a pas l'ouverture, parce qu'on a peur des critiques? Mais l'art, ça devrait être décomplexé. Puis on devrait pouvoir aller dans ces époques-là, justement, pour se comparer puis avoir des débats par la suite. Mais ça nous ramène à... C'était quoi la réalité? On devrait être super ouvert à ça. On s'entend, on ramène pas le Ku Klux Klan puis on commence à dire que c'est une belle affaire, là.
Ben c'est parce que si on voulait ramener le Ku Klux Klan, d'accord, si c'était un choix artistique de faire ça, je pourrais peut-être comprendre que la rencontre soit requise. C'est-à-dire, là, expliquez-nous ça parce
ben
que
oui,
c'est
là.
Vraiment la première fois de notre vie que quelqu'un nous offre un truc semblable. On a besoin d'explications. Mais là, c'est pas ça pantoute. C'est un homme né en 45, qui est en 95, puis qui fait face à la modernité. Allô, Prime, c'est quoi qui est compliqué là-dedans? C'est pas bien ben compliqué, là. Hein, je vous dis, je vais me désabonner.
Mais
là,
hey, en même temps, Rémi, là. Il y a tellement de poursuites dans ce monde à
ouais.
cette heure sur justement des projets artistiques ou des artistes qui veulent louer une salle, puis là, il y a des mouvements de contestation. Tiens, je vais prendre le documentaire Génération 30 de Jean-Pierre Roy. Ça me surprend pas que Prime se mette quadruple
non,
bretelle.
Non, mais c'est un problème, tu penses pas?
Ben, c'est un problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un énorme problème. Mais ça me surprend pas qu'une compagnie comme Prime mette les quadruples bretelles. Parce que c'est qui va encore nous poursuivre ici aujourd'hui?
Ouais, mais là, attendez une minute, là. Parce que, connaissez-vous l'expression « avoir du fuck you money » hein? Donc ça veut dire que vous êtes tellement riche là, que vous êtes capable de donner de l'argent comme ça, ça vous fait pas un pli, ça vous fait pas une différence. Moi, on m'a toujours expliqué que le jour où je vaudrais 150 millions de dollars
ouais.
ou 2-3 milliards de dollars, et ça s'en vient, c'est
oui, c'est ça,
chemin.
Tu nous le diras, ça.
Que dans ce temps-là, ben, à ce moment-là, je pourrais faire ce que je veux. Prime, là, ça vaut combien, ce business-là? Pourquoi ils se posent ces questions-là que des gens qui sont en début de carrière se posent, pas dérangés, pas heurtés, pas... À moins que ça soit comme ça qu'il se soit rendu si célèbre et si grand et si gros et si riche, c'est en prenant peu de risques. Ça, je trouve ça un peu ordinaire. Parce
mais
que
tu,
ça
le compares, tu le compares à quoi un géant comme Netflix qui a sorti le documentaire sur PDD puis qui s'est dit, même si lui, avec tout son cash, il nous poursuit, fuck off, on va de l'avant, on va faire plus d'argent ou encore on est prêt à affronter la tempête?
Ben, tu vois, c'est heureusement qu'il y en a qui font qui affrontent la tempête. Je ne sais pas pourquoi Prime a eu peur. Bon, là, la deuxième affaire que je veux vous dire, c'est parce que il y a un lien avec la première, c'est que mettez-vous à la place de Martin Matt. Cette rencontre-là est requise. On vous demande de vous expliquer. Quand vous avez fini par les convaincre puis que vous pesez sur fin de la discussion, vous avez quand même un peu la chienne. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le créateur que vous étiez avant la rencontre. Vous êtes un créateur... qui a eu une cause, mais qui est quand même au courant que ça posait un problème puis que vous n'avez peut-être pas convaincu tout le monde, finalement, dans cette rencontre.
Donc là, j'essaie de lire dans ta tête, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas créer quelque chose, ben là, c'est plus ce que je viens de dire, Prime, qui met quadruple bretelle, c'est l'artiste et c'est là que ça devient dangereux.
Ben, je veux pas lui prêter d'intention, je veux pas même imaginer qu'il sera moins virulent, qu'il sera moins courageux. Je veux pas aller là, mais je vais quand même utiliser mon expérience. J'ai regardé la série jusqu'au complet, puis dans les trois premiers épisodes, ça m'a quand même un peu fatigué, le fait qu'il y avait rien qu'un personnage de cette génération-là qui avait une sensibilité puis qui était comme un peu homme de son temps. Je sais que c'est une comédie, OK, d'accord, mais au Québec, on aime ça, prendre des comédies puis en faire un sujet politique, puis c'est correct, c'est une belle qualité qu'on a. Mais dans la série, il y a juste un personnage qui appartient à sa génération, qui est un peu sensible, qui est un peu à cheval avec son temps et sa modernité. Et ça, moi, j'ai consulté autour de moi. J'ai demandé à des gens qui ont l'âge, tu sais, qui ont 60 ans, 65 ans aujourd'hui, je leur ai dit, en 95, là, il y en avait-tu du monde qui était un peu nuancé? Il y en avait-tu du monde où tout le monde réfléchissait comme des hommes dans des tavernes des années 60-70? On m'a dit, ben non, on va dire, il y avait toutes sortes de gens. Je trouve pas que c'est vraiment bien représenté dans la série. Mais c'est drôle, ça remplit son objectif. Donc là, j'en appelle ni à la censure, ni à la réécriture. Je vais juste dire que j'imagine quand même que c'est potentiellement une conséquence de cette rencontre-là. Peut-être que Martin Matt et François Havard, quand ils sont retournés à l'écriture, ils se sont dit, bon, écoute, on a gagné, mais ça les dérange quand même. Fait que ce qu'on devrait peut-être faire, c'est... insister sur les traits. Les personnages Cave et Colomb, on va en mettre beaucoup pour qu'on comprenne que c'était une génération, puis c'était des gars, puis ils étaient blancs, puis ils étaient canadiens-français, Puis il y en a un qui était correct, mais lui, c'est parce qu'il est gay, puis c'est refoulé. Fait que lui, c'est correct. Lui est sensible. Si vous regardez la série, vous allez comprendre.
Rémi Villemur, ça m'amène à penser à ta deuxième question que tu me posais par texto ce matin. Tu disais, est-ce qu'on a trop de sages dans notre société? Est-ce qu'on se fie trop à ces comités de sages? Là, on entend ça. Oh, on a un problème avec la transition de genre. On va demander un comité de sages de se pencher là-dessus. Nos anarchiques, là, ils peuvent pas changer la société, coudonc?
Ah, bon, là, attendez une minute, là. Moi, je parle des enfants, parce que les enfants, on n'arrête pas de leur inventer des règles. Là, on se rappelle la fameuse règle des buttes de neige. Puis là, on disait, si vous descendez une butte de neige, il faut mettre un casque, puis suivez les
Il y a même
règles.
quelqu'un qui avait développé un programme informatique pour faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'utiliser le galon. On prend une photo, on rentre ça dans le système, puis là, on sait si les enfants peuvent glisser. C'est extraordinaire!
Oui, c'est parti, mon kiki. On pense que l'enfant idéal, c'est un enfant sage. Puis là, je veux être bien compris, parce que j'ai aussi dit plusieurs fois en ondes que les règles, c'est important, puis que même, il faut accepter que les enfants, il faut encourager les enfants, des fois, à respecter des règles niaiseuses, parce que ça leur enseigne que dans la vie, il y a des règles niaiseuses, puis il faut. Tu peux avoir une conversation avec ton enfant à la maison, hein, tu peux lui dire, regarde, la règle est niaiseuse, mais celui-là, pareil, je suis avec toi, mon gars, puis c'est pas grave. Tu sais, ça se fait, ça. Ça peut être nuancé, une éducation. Mais ça prend pas juste des gens qui obéissent dans la vie. T'sais, regardez autour de vous les entrepreneurs, les rêveurs, les artistes, même les premiers ministres en passant. Pas sûr que moi, que Christine Fréchette, c'était la plus sage à l'école, même si on a l'impression que oui. Moi, je pense que quelqu'un qui devient premier ministre dans la vie, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux. C'est quelqu'un qui réfléchit en dehors de la boîte. C'est des rêveurs, c'est des gens qui font de l'insomnie la nuit. C'est des gens bizarres, les gens qui créent et qui sont au sommet dans la société. Donc, dans un Québec où il y a de moins en moins d'entrepreneuriat, dans un Québec de plus en plus réglementé, dans un Québec où on se watch constamment, moi, je ferais attention à encourager uniquement le fait d'être sage et d'obéir. Ça prend des petits fous puis des petites folles pour faire le Québec de demain.
Ah, j'aime vraiment ce que tu nous amènes parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Faut sortir des sentiers battus, puis faut avoir l'énergie de le faire. Puis si on est trop sage, on n'aura pas d'énergie, puis on n'osera jamais repousser la limite. Puis c'est en repoussant la limite qu'on invente, qu'on entreprend, puis qu'on réussit.
Bien, je trouve que ça va avec la première chose que Rémi nous disait par rapport à la série qui écoute, là. T'sais, Martin Matt, est-ce qu'il s'est stoppé à un moment donné? Parce que là, on le fait
Ouais.
réfléchir sur l'aspect humain derrière ça, est-ce qu'on va froisser, etc. Puis des fois aussi, dans la société, c'est bon parce que même quelqu'un qui pourrait être super éclaté n'a pas pris le pouls de. Hey, je vais-tu faire mal? Je vais-tu faire du mal à quelqu'un? Y a-tu un angle mort que j'ai pas, moi, que j'ai pas vu ou que j'ai pas eu de sensibilité, pas parce que je suis un écœurant, mais juste parce que je ne l'ai pas vu? Ça aussi, ça amène un re-questionnement des fois, puis tu
Ben
vas
oui.
moins loin. Il n'y a pas vraiment de balance. C'est difficile de trouver l'équilibre, on dirait.
Oui, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça qu'on n'est pas des machines, puis qu'on est doté de nerfs, de poils, de chair, de toutes ces affaires-là qui ne sont pas tout à fait de l'ordre de la rationalité. On est sensible, on peut se tromper, on peut s'améliorer même.
On devrait
Là,
pardonner. On devrait pardonner
ah
plus.
oui,
Moi, je
ah
pense que
oui.
c'est là, tu sais, dans
En
l'équilibre,
effet.
ça va être dans le pardon du fait. T'es pas un sapristi d'écœurant. T'es pas catégorisé comme une marde. On te cancelle pas à première erreur. Il y en a que je comprends, mais je pense qu'on est capable d'avoir une discussion adulte en ce moment-là, puis d'avoir des nuances. Mais c'est peut-être le pardon le problème.
Ben, tout à fait, Pascal. Puis, tu sais, il y a deux types de personnes à qui on peut pardonner. Il y a les gens qui avaient pas l'intention de commettre quelque chose de mal. Ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne plus rapidement à leur pardonner, ces gens-là. On appelle ça faire un accident, ça. On appelle ça être maladroit. Ça, il n'y a pas de raison d'en vouloir à quelqu'un toute une vie parce qu'il n'a pas fait exprès. Et on est même capable parfois de pardonner ceux qui avaient des mauvaises intentions. Mais commençons donc avec ceux qui se sont trompés. Ça m'en débarrasse, ça fait déjà un bon débarras.
J'adore Rémi Villemur. Bon, ben, je vais écouter Vitrerie Joyale ce week-end
Oui,
avec ma
écoutez-là,
conjointe,
attendez, je
c'est
veux juste être bien
clair.
compris, c'est bon la série, là,
Ben,
puis
c'est clair, je l'écoute.
moi, je vais me désabonner parce que moi, j'aime pas ça me faire crosser, mais c'est la vie, ça c'est moi, OK? Fait que vous, abonnez-vous, puis regardez-la, puis après, restez abonné ou pas, puis c'est une bonne comédie, là, on rit, puis ça fait du bien, puis
Cool.
c'est bien écrit.
On t'écoute comme à chaque lundi au jeudi sur les ondes du 99.5 Montréal à compter de 18h et samedi matin de 8h à 10h avec Jacinthe Varelle. Salut Rémi Villemur, à la semaine prochaine.
Ciao,
Ciao
ciao.
Rémi qui est avec nous les mardis et jeudis.
Et je fais une chronique avec Rémi une fois par semaine
Oui.
sur son émission à Montréal. Puis hier, j'ai apporté le sujet qu'on est en train de ramener la punition corporelle chez les enfants. C'est fascinant de voir ça. Je trouve que ça fit avec son sujet d'aujourd'hui. Quand tu dis qu'un pays est en train de réfléchir, bien, Singapour dans ce cas-ci, sur ramener la punition physique, est-ce qu'on retourne trop en arrière? Est-ce qu'on on punit bien nos enfants? Est-ce qu'on fait comprendre? Il y a des débats comme ça, comme celui qui vient de nous livrer, où tu te dis comment tu vas bien élever ton enfant. Tu sais, moi, je pense que tu as deux gars, là. T'en as fait des erreurs.
J'en ai fait des erreurs.
Est-ce qu'ils sont assez créatifs? Est-ce que tu as l'impression que tu les as laissés assez vivre? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de règlements?
Je pense que oui.
Ta balance là-dedans est où? Moi, je pense pas qu'on doit revenir au châtiment.
La balance d'un et pas la balance de l'autre. Puis non, moi, les punitions physiques, là.
Moi, je suis complètement désaccord.
Dans l'heure du temps,
ce qu'on dit
aussi,
en psychologie, c'est que l'enfant ne va pas réfléchir. Là, il ne va juste pas avoir peur de se faire frapper.
C'est ça, là.
Puis en plus, ça va lui apprendre à... On a le droit, dans certaines circonstances,
de frapper.
D'aller là.
Non, une société va gagner en violence avec ça.
Mais
c'est clair.
C'est pourquoi on n'est pas capable de discuter puis de mettre les règlements puis d'avoir la nuance de dire « Hey, ça, c'est con, mais pour le bien de la société, on la respecte. »
Je te dirais qu'il y a plusieurs gens qui ne veulent plus débattre. C'est une conséquence, je pense.
Ce serait peut-être le premier point, tu penses?
Oui, je pense que oui. Tu as juste à lire les trolls sur les médias sociaux.
Ouais. Je trouve que c'est l'âge de revenir au châtiment corporel.
Ben oui, ben oui, voyons, ça n'a pas de sens.
C'est une opinion.
Éduquons avant de frapper. Éduquez, ne frappez pas. Circulation, Pascal?
Laurentienne Sud, auteur de la rue de la Fonde, la voie de gauche qui est partiellement entravée, il y a des débris.
Courte pause à Boulevard 101, émission en jase. On revient avec un bon bloc news pour vous.